Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Leridon, Lucas Lazo, réalisée ce matin par Philippe Baudouin et mise en ombre par Jacques Hubert. Nouvelle série donc consacrée aux inégalités de genre, au cours de laquelle nous allons nous pencher sur quatre lieux où elles se cristallisent, l'école, le marché du travail, la ville, mais pour commencer, la politique. Politique, une féminisation en trempe-l'œil, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Avec les autres femmes membres de notre gouvernement, eh bien on ne se réunit pas dans les vestiaires pour femmes pour discuter. En fait, je n'ai pas tant porté attention à ce que disaient les médias. Je sais que le fait que nous ayons tant de jeunes femmes au pouvoir présente une différence par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Nous avons en fait un gouvernement de coalition composé de 5 partis et chacun de ces partis est dirigé par une femme. Et bien sûr, cela semble différent de ce à quoi on a l'habitude. Mais j'espère qu'on n'aura pas besoin d'en parler autant à l'avenir, parce que cela devrait être perçu comme quelque chose de normal.
Sanna Marin, chef du gouvernement de la Finlande depuis décembre dernier, dont l'entrée en fonction avait provoqué un intérêt de l'ensemble de la presse internationale. Elle aurait reçu, c'est ce qu'a dit son entourage en tout cas, quelques 500 demandes d'interview en quelques heures. Et pour cause, Sanna Marin va à l'encontre des stéréotypes puisqu'elle n'est pas un mâle blanc de 50 ans, mais seulement trentenaire et une femme de surcroît. De Sanna Marin, élue Premier ministre de la Finlande, donc à 34 ans, à la congresswoman américaine Alexandria Ocasio-Cortez, les médias ont récemment mis en lumière plusieurs figures de femmes politiques, soulignant leur genre et leur jeune âge, faisant d'elles les incarnations d'un renouvellement du pouvoir. Mais les femmes sont loin d'être nouvelles en politique, d'Angela Merkel à Margaret Thatcher, en passant par Michelle Bachelet au Chili ou Indira Gandhi en un nombre de grandes figures de femmes jalonnent l'histoire politique récente du monde. Et pourtant, évidemment, force est de reconnaître qu'elles n'ont pas la place qu'elle devrait avoir, ne serait-ce qu'au regard de ce qu'elle représente d'un point de vue démographique. Alors, quel est l'état de la situation? Quelles sont les options retenues pour aller vers la parité, quota ou pas, loi ou simple incitation, et avec quels effets? Faut-il accepter le différentialisme pour permettre la féminisation des sphères de pouvoir? Quels sont encore les obstacles à l'entrée des femmes en politique? Les blocages sont-ils institutionnels ou sociétaux, ou est-ce lié à une certaine conception de l'égalité? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Réjeanne Sénac. Bonjour Réjeanne Sénac.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, le CEVIPOF, et membre du comité de pilotage de Présage, qui est un programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. Et vous êtes une spécialiste de l'égalité, de la discrimination et de la diversité. Vous avez signé l'année dernière, en 2019, au rue de l'Échiquier, l'égalité sans condition. On aura l'occasion d'en parler ensemble. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de vous faire réagir à ce petit son que nous avons choisi ce matin, je vais vous faire réagir, Réjeanne Sénac, sur l'actualité, parce qu'on a été elle a été largement occupée par les questions qui vont nous intéresser cette semaine, avec évidemment ces Césars où Roman Polanski a été récompensé, provoquant l'ire des mouvements féministes et le départ d'Adèle Haenel de la salle où étaient remis ces Césars. On en a un tout petit peu discuté avant de prendre l'antenne. Réjeanne Sénac, et vous vouliez dire un mot peut-être sur ce que révèle justement tout cela?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, où nous discutons cette semaine qui est liée donc à cette journée, on a encore besoin d'une journée d'un point de vue international pour parler de ce qu'est ou de ce que devrait être plutôt l'égalité femmes-hommes. Cette émission se concentre sur le qui du politique, hein, mais je pense qu'on ne peut pas parler du qui du politique sans parler du ce qui est politique. Qu'est-ce qui est politique ? Et je trouve que la remise des Césars a interrogé ça. On voit bien qu'il y a non seulement une redistribution des cartes très faible hein, en ce qui concerne le partage des responsabilités en politique, mais aussi dans toutes les autres sphères, en particulier de création, hein, d'être en capacité de décider, mais aussi de créer. Donc c'est tout à fait en lien avec en particulier le cinéma, les actrices, les acteurs. Donc il y a une très faible redistribution des cartes sur le fait d'être en position de décider et de créer. et pas seulement de reproduire, mais de produire. Et puis, il y a aussi une loi de silence qui est en train de s'ébrécher, mais en réalité, pas vraiment non plus la place pour une parole réelle. On voit que la seule alternative, par exemple, d'Adèle Haenel, qui a créé d'ailleurs un hashtag et qui a été repris par Virginie Despentes, c'est de quitter la salle, de partir. Ce qui est dit quelque chose, c'est-à-dire ça dit qu'il n'y a pas encore la place pour parler réellement et sans second degré, mais en frontal et en réel, justement les rapports de pouvoir, de domination, qui sont encore légion. Et le fait de nominer à deux reprises un réalisateur qui a été condamné pour violence sexuelle, alors qu'un film qui porte une déconstruction des identités de genre n'a qu'un seul prix à la photographie, et sans aucun doute la démonstration que ceux qui sont en position de pouvoir ne sont pas forcément en volonté de faire advenir une autre société.
Et puis sur la question justement de dire les choses, de nommer les choses, on aura aussi noté que Florence Foresti, qui était là pour organiser la soirée, présenter la soirée, n'a jamais évoqué directement la figure de Roman Polanski. Elle l'a. Tout du long, elle en a parlé, mais sans dire explicitement son nom.
Alors, oui, tout à fait. Et c'est là où je trouve que c'est un moment, on vit un moment de clair-obscur. Hein. On peut reprendre Gramsci là-dessus. De manière assez générale, on le voit dans quelque chose qui est plus qu'une crise de légitimité de la démocratie et du politique aujourd'hui. De manière, on le voit avec le 49-3, donc cette opposition à la fois à la loi, la réforme des retraites, mais aussi à la réforme du service public plus généralement. Je suis enseignante-chercheur, donc il y a vraiment un sujet en particulier sur la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais plus largement sur tous les autres enjeux, et vous êtes dans une radio publique, donc là, un moment de clair-obscur où à la fois on dénonce des choses et en même temps on a l'impression de ne pas avoir la parole. Et sur les questions de la politisation des enjeux autour de l'égalité femmes-hommes, aussi bien dans la sphère publique mais aussi dans la sphère privée, et c'est lié, aujourd'hui on a parlé de la place des femmes dans le monde politique, mais on peut pas occulter que ça pose aussi la question de la politisation du privé. Et on voit bien que cette cérémonie, c'était tout à fait ça. C'est-à-dire que, comme si on ne pouvait pas réellement l'assumer comme un sujet sérieux qui se disait au premier degré.
Réjeanne Sénac, on a choisi pour lancer cette émission cette figure de Sana Marine à double titre. D'abord parce que effectivement c'est une femme, mais que par ailleurs elle est assez jeune, elle est trentenaire, elle a 34 ans. Il est assez rare au fond d'avoir des chefs de gouvernement qui ont cet âge-là. Que vous inspire justement cette figure et peut-être l'attention médiatique qu'on lui a portée. Je le disais dans mon introduction, en quelques heures, 500 demandes d'interview. Et pour beaucoup, ce qui intéresse, c'est aussi précisément le fait qu'elle soit jeune et le fait qu'elle soit une femme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous dites, c'est une bonne chose, on va dans le bon sens? Ou le fait que précisément on souligne son statut de femme et de trentenaire par ailleurs, ça nous laisse quand même encore apercevoir le chemin qui reste à parcourir?
Moi, je trouve que l'extrait que vous avez passé est tout à fait significatif parce qu'elle est absolument lucide de ce qu'elle représente, c'est-à-dire l'exception qui confirme la règle. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il faut que ça devienne un enjeu normal. Normal au sens à la fois de moyenne numérique, ce qui n'est absolument pas le cas. On a dans le monde que 21 femmes chefs d'État et chefs de gouvernement, donc moins de 10% par rapport au nombre des pays, et en additionnant chefs d'État et chef de gouvernement. Donc on est encore vraiment dans l'exceptionnalisme.
Et l'essentiel en Europe.
Et l'essentiel en Europe. Donc on est plus à 5% qu'à 10% d'ailleurs si on fait séparément chef d'État et chef de gouvernement. Donc elle a bien conscience qu'elle est une exception. C'est assez révélateur que ce soit en Finlande, puisque la Finlande est le pays au monde où les femmes ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité en même temps le plus tôt. C'est en 1906, puisque les autres pays s'étaient souvent décalés. Donc c'est souvent lié à une histoire. Mais elle a conscience de la dimension exceptionnelle. Et deuxièmement, elle interroge le fait de la normalité, non pas seulement au sens de moyenne quantitative, mais aussi au sens de à quoi ça renvoie en termes de stéréotypes, de préjugés. Donc là, moi je trouve que c'est intéressant de voir qu'on en est encore là, c'est-à-dire on en est encore à mettre tous les projecteurs quand on a une femme à la tête d'un gouvernement qui plus est jeune. Bien sûr qu'on peut se réjouir qu'il y ait des femmes à la tête de gouvernement, mais qu'on en soit encore à une si faible proportion au niveau international, et que ces femmes-là sont de ce fait-là pas des femmes politiques à part entière, au sens où elle doit perdre du temps, je veux le dire très clairement, à se justifier, à répondre à la presse sur des sujets qui ne doivent pas être normalement de ses sujets premiers, qui sont avant tout d'être une chef de gouvernement à part entière. Donc là, ça montre bien, mais c'est le cas aussi pour les femmes à poste de responsabilité dans le monde économique. Mmh. Voilà, on voit bien qu'on est encore dans quelque chose qui est à contre-courant.
Réjeanne Sénac, dans votre ouvrage « L'égalité sans condition », ce qu'on comprend parfaitement, c'est que derrière ces problèmes d'inégalité homme-femme, il y a un problème d'égalité tout court. C'est-à-dire que dans l'introduction de votre livre, vous reprenez un extrait d'un texte de Condorcet paru en 1790 dans le journal de la Société de 1789, dans lequel il dénonce précisément le fait que les philosophes, que les législateurs aient violé le principe d'égalité des droits en privant, je vous cite, la moitié du genre humain de concourir à la formation des lois en excluant les femmes du droit cité. Au fond, derrière les problèmes qu'on évoque de présence des femmes dans le paysage politique, c'est un problème concernant notre conception, quand je dis notre, c'est-à-dire la conception française de l'égalité. Qu'est-ce qui pose problème dans la conception française de l'égalité ?
Alors, il suffit d'analyser notre devise pour le comprendre, hein, liberté, égalité, fraternité. Le troisième terme de la devise, c'est pas maillon faible, hein, c'est le qui du politique, c'est-à-dire à qui on applique légitimement les principes de liberté et d'égalité, qui sont les principes du libéralisme politique, des droits fondamentaux, mais aussi du républicanisme, en particulier du républicanisme français. Le fait que cette devise ne pose pas problème montre bien qu'on est encore dans un héritage d'angle mort où les frères, historiquement, ont été marqués par une singularité qui a longtemps porté le nom d'universalisme. Les femmes ont été exclues du droit de vote et d'éligibilité jusqu'en 44 en France. Et leur accès au droit de vote et à l'éligibilité n'est pas passé par les chambres parlementaires, hein, c'est passé par une ordonnance portant organisation des pouvoirs à la libération. Donc on est vraiment rentré par la petite porte dans la démocratie française. Et les femmes, de la même manière que les personnes racisées, n'ont pas été exclues plus largement des droits de l'homme et du citoyen pour des raisons accessoires, mais parce qu'il leur était nié la capacité d'être des êtres de raison et de se détacher de leur prétendue mission naturelle et vocation. Donc, ils étaient, les personnes, les non-frères, ce que j'appelle les non-frères, étaient renvoyés à une forme d'animalisation, de dépolitisation. Et pour moi, on ne peut comprendre aujourd'hui nos inégalités et la persistance, la reproduction de l'exclusion des femmes des sphères de pouvoir, mais aussi des personnes racialisées, que si on comprend que ça fait partie de notre héritage et qu'on ne pourra dépasser cet héritage-là, qu'en assumant une critique forte de nos fondations. Et c'est vrai que le fait qu'on en soit encore à trouver ça accessoire, que ce soit fraternité, le troisième terme de notre devise, ou qu'on parle des droits de l'homme, que l'on en soit encore à avoir une lecture absolument mythifiée, idéalisée de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, voilà, de tous ces grands hommes qui ont justifié de manière tout à fait conceptuelle et fondamentale l'infériorisation, l'animalisation des femmes, mais aussi des personnes racisées, en tout cas pour Voltaire, quand on lit ses passages sur les juifs et les nègres, il faut quand même être bien assis, sur les femmes aussi. Je crois que là, on voit bien qu'on est, alors on n'est pas le seul pays, si on va regarder ensemble, on va avoir une cartographie un peu internationale, la France n'est pas le seul pays à avoir exclu les femmes du droit de cité, mais la spécificité française, c'est qu'on les a exclus au nom de l'égalité. Voilà. Donc c'est là où il y a un problème fondamental, c'est qu'on se dit le pays des droits de l'homme, et c'est qu'au nom de cette égalité-là, qui ne s'appliquait légitimement qu'aux frères, les femmes ont été exclues de l'application de ce principe, comme du principe de liberté, puisque les deux sont intimement mêlés.
Est-ce que vous pensez qu'au nom du principe d'égalité des droits, justement, il faut forcer l'intégration des femmes dans le jeu politique ? Alors, à travers des quotas, à travers des lois, c'est évidemment une question qui revient très régulièrement, mais est-ce que vous pensez qu'il faut le faire ? Et est-ce qu'il y a peut-être aussi un risque derrière ce forçage qu'on n'imagine pas forcément ? Je crois que risque il y a de votre point de vue, mais j'aimerais que justement vous nous expliquiez lequel.
Alors je pense que si on veut pas se faire complice d'une reproduction du système, on est obligé, même si c'est assez désagréable, de mettre en place plusieurs stratégies entremêlées. L'important pour moi, les outils de politique publique, ils sont pas bons ou mauvais en eux-mêmes, et donc les principes de justification du choix de ces instruments de politique publique sont essentiels. Je m'explique. Il y a un angle mort sur l'exclusion des femmes et des personnes racisées, enfin des non-frères, des principes d'égalité et de liberté. Et on voit que dans les années 90, il y avait la même proportion de femmes à l'Assemblée nationale et au Sénat qu'à la première assemblée élue après le droit de vote, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. On était à 5% de femmes parlementaires. Alors soit on en déduisait, comme tous ces grands philosophes, que les femmes n'étaient pas faites pour ça et qu'il y avait quelques monstres, quelques exceptions de la nature, donc ça c'était les 5%, hein. Soit on en déduisait que structurellement les femmes étaient exclues de l'accès au pouvoir et que donc il fallait en passer par des mesures contraignantes, ce que moi j'appelle action positive, hein, puisque la discrimination est de l'autre côté, elle est structurelle, mais que ça suffisait pas, mais qu'il faut mettre en place, pour débloquer un système verrouillé, et verrouillé en angle mort, en particulier des quotas, hein, de contraintes, et on voit que c'est très efficace, et pas seulement en France, mais pour de bonnes raisons, c'est-à-dire pour lutter contre des discriminations structurelles et pas au motif où les femmes apporteraient autre chose. Si c'est au motif dire que les femmes vont apporter autre chose en politique ou autre chose dans les conseils d'administration, par exemple, on reproduit les mêmes causes, les mêmes raisons qui ont justifié leur exclusion, c'est-à-dire qu'on est dans des logiques de plus-value, de complémentarité. Donc, je pense qu'il est important de mettre en place ces mesures de court terme pour débloquer les choses, mais accompagnées de mesures de long terme, en particulier d'éducation à l'égalité et à la déconstruction des stéréotypes. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de contradiction. Souvent, on dit, alors, il faut changer les mentalités, donc ça ne sert à rien de mettre en place des quotas. Bah, si, il faut faire les deux. Je veux dire, c'est, mais avec une logique, un continuum systémique. Et la loi espagnole de 2007 sur la loi sur l'égalité effective est très intéressante parce qu'elle va de la socialisation non sexiste jusqu'au partage du pouvoir. C'est la même loi qui parle de tout. Et je pense que ça, c'est essentiel parce que bien sûr que si on en est encore à un quart de salaire en moins en moyenne pour les femmes, jamais une femme n'a été chef d'État en France. On se retrouve avec des proportions de femmes à des postes de responsabilité réelle très faibles. Bien sûr que c'est imbriqué dans une éducation qui reste encore une éducation de bleu et de rose, où le bleu vaut plus que le rose, ou en tout cas est plus sérieux et plus crédible.
Donc si je vous entends, Régiane Sénac, il faut se méfier en tout cas de cette vision différentialiste. Parce qu'elle reste dans une vision en réalité très conservatrice, bien qu'incluante, de ce rapport homme-femme. Je voudrais vous faire écouter peut-être un son et puis réagir ensuite. Il s'agit de Christine Lagarde. Il va être question notamment de Lehman Brothers, ou plutôt de Lehman Sisters.
But I think, you know, I have said, and I'm quoted to have said, that if Lehman Brothers had been a bit more Lehman Sisters... Now, I'd be very happy to qualify that, because I think that, you know, we are very much here for the Women International Day. But I think if Lehman Brothers had been a little bit more Lehman Sisters and Brothers, you see, concession here, we would not have had the degree of tragedy that we had as a result of what happened.
Voilà, on est en 2012 au Forum Women in the World. Alors, en quelques mots, Christine Lagarde nous explique que si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, ou en tout cas un peu plus Lehman Sisters and Brothers, eh bien, on n'aurait peut-être pas eu la crise qu'on a eue. Je voudrais qu'on s'interroge un tout petit peu, Régiane Sénac, sur cette idée, sur cette assertion, et qu'on regarde quelle en est la véracité. Est-ce que les femmes seraient réellement plus raisonnables que les hommes? Est-ce qu'elles auraient un exercice du pouvoir différent de celui des hommes? Est-ce que leur intégration à des postes à responsabilité serait véritablement plus bénéfique d'un point de vue politique, économique, financier? Est-ce qu'on peut s'interroger sur cette idée-là? Et est-ce qu'il existe, Régiane Sénac, tout simplement, des études un peu scientifiques sur ce sujet?
Alors, les femmes ont été exclues du pouvoir parce que leur nature était soi-disant incompatible avec l'exercice de la raison et la mise à distance, donc le fait de porter l'intérêt général et pas d'exprimer leurs pulsions ou que leurs hormones parlent à leur place. Et aujourd'hui, on en est encore à justifier leur inclusion au nom d'une plus-value qui serait aussi naturelle, hein, néo-essentialiste. Hein. Les fameuses études très critiquées, critiquables, ont été faites sur des traders de la City de Londres, une vingtaine. Alors, on a beaucoup parlé de cette étude parce qu'en fait, elle rentre vraiment dans cet héritage essentialiste avec l'idée que les traders, puisque ça a été fait, le test a été fait que sur les hommes, avec un digital ratio, c'est-à-dire la différence de longueur entre l'annulaire et l'index, qui est soi-disant indicateur du taux de testostérone. Et donc, ceux qui avaient le taux de testostérone le plus élevé, avec cet indicateur indirect, étaient aussi ceux qui prenaient le plus de risques sur les marchés. Et donc, il y a donc l'idée que les femmes ayant en moyenne moins de testostérone, elles prendraient moins de risques, ce qui entraînerait moins de profits dans des moments prolifiques, économiquement de croissance, mais ça permettrait aussi qu'il y ait moins de pertes dans les moments donc de crise. Alors, beaucoup de travaux, et en particulier là d'anthropologues, ont montré que c'était essentialisé des choses qui étaient de l'ordre du construit social. C'est-à-dire ceux qui prennent le plus de risques, c'est ceux qui se sentent légitimes à le faire. Donc c'est ceux qui ont été élevés comme des dominants. Étant donné que aujourd'hui les femmes sont élevées, les filles sont élevées dans une logique plus de docilité et moins d'assurance en elles, il est tout à fait une conséquence sociale qu'elles prennent moins de risques et que les hommes qui ont été élevés, les garçons, il y a une dimension intersectionnelle, hein, les garçons encore plus quand ils sont de classe dominante, se sentent légitimes à prendre des risques. Donc là, on voit qu'encore une fois, il y a un glissement d'un construit social vers une naturalisation. Mmh. Et le piège qui est malheureusement minoré par de grands nombres de personnes, et en particulier de femmes, c'est de croire que la fin justifiait les moyens et que le registre économique étant le seul registre audible, en particulier dans une ère telle que celle que l'on vit néolibérale, il faut démontrer que c'est rentable pour inclure les femmes. Mais aussi les personnes racisées, on est dans un registre, la diversité, c'est bon pour le business, on est dans les mêmes logiques. Et donc, cette expression de autour de Lehman Brothers a vraiment été utilisée pour justifier, par exemple, la mise en place des quotas pour les conseils d'administration en France, hein, mais pas seulement. Je trouve que c'est à la fois effrayant de se dire qu'on en est encore à avoir des logiques néo-essentialistes aujourd'hui, mais c'est aussi pragmatiquement tout à fait inefficace. Hein. C'est-à-dire qu'au mieux, si on montre que c'est rentable d'inclure les personnes qui étaient exclues, en particulier les femmes. On les inclut à condition que les stéréotypes soient validés et reproduits. C'est-à-dire qu'à condition qu'elles restent à leur place et qu'en tant que femmes, elles fassent un autre job que les hommes. Donc en fait, on est en train là de permettre, par une ruse assez minable, mais enfin qui n'a pas l'air de choquer grand monde, de moderniser la complémentarité des sexes avec les stéréotypes.
Mais si c'était seulement une étape, après tout, on pourrait commencer par se dire, effectivement, il y a une forme de plus-value, même si c'est pas forcément juste un, et même si, effectivement, derrière, il y a une certaine vision différentialiste que vous aimez pas beaucoup. Mais si, après tout, ce n'était qu'une étape, et que derrière, une fois que tout cela était bien installé, eh bien, on ne fasse plus attention à cette différence. Parce que je pense aux pays nordiques où, au début, en tout cas, on a beaucoup mis justement en avant l'idée de cette plus-value que serait d'inclure davantage de femmes dans les conseils d'administration, etc. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment, en tout cas, c'est ce qui se lit dans la presse nordique, qu'au fond, c'est beaucoup moins une question.
Et parce que le contexte est différent. C'est-à-dire que les pays nordiques, c'est associé à une socialisation non sexiste, au fait qu'on, dans certains pays, on utilise un pronom neutre pour s'adresser aux enfants dans les écoles, qu'on déconstruit les stéréotypes dès la petite enfance, qu'il y a un service public à la petite enfance dès les 1 an des enfants. Donc, alors que nous, on est dans un pays où on est encore au carnaval à déguiser les petites filles en princesses et les petits garçons en chevaliers. Donc, je veux dire, si on est dans quelque chose où, en fait, on est dans un mainstream qui reste celui de l'assignation à la complémentarité, pour moi, je la vois mal, l'étape d'après. D'accord. Et en plus, il y a autre chose, c'est que là, c'est si on est optimiste. On se dit, bon, on arrive à montrer qu'il y a une plus-value. Mais si on est dans ce registre-là où tout est justifié par la rentabilité, on peut aussi montrer que c'est pas rentable. On peut montrer que c'est rentable de discriminer, que c'est rentable qu'il n'y ait que de l'entre-soi. Donc, on prend quand même le risque de revenir et de tuer un principe qui devrait être, et qu'on revendique en plus, ce qui est quand même assez paradoxal, comme un principe premier, un principe inconditionnel égalité. Donc, moi, je crois que c'est absolument pas accessoire de s'enfermer dans ce registre-là, surtout en France, à la différence des pays nordiques, où on est encore tout à fait on a du mal, et on l'a vu avec l'ouverture du mariage civil aux couples de personnes du même sexe en particulier, on le voit autour de la remise des Césars et du choix des Césars, on est encore dans une société qui est une société fondée sur des stéréotypes qui ont encore et qui sont effectifs, c'est-à-dire que oui, ceux et celles qui ont des enfants à l'école maternelle, on appelle ça encore l'école maternelle, entendent encore, c'est bien qu'il y ait autant de filles que de garçons dans la classe, voilà. Donc la déconstruction, elle est loin d'être systémique, à la différence des pays nordiques. Donc quand on cumule ça avec le fait de justifier à la tête du pouvoir l'inclusion de certaines femmes en tant que femmes et dans des rôles particuliers, on voit bien qu'on est encore dans une survivance et une reproduction de la division du travail.
Alors c'est intéressant parce que on peut voir ça dans effectivement ces femmes qui ont des responsabilités qu'elles n'ont peut-être pas suffisamment, mais on peut aussi le voir du côté de l'électorat féminin. On dit parfois qu'au fond les électrices ne seraient pas des électeurs comme les autres. Or quand on regarde les choses, c'est parfaitement faux. Regardons par exemple les élections américaines de 2016, on pensait qu'Hillary Clinton aurait beaucoup plus de voix de femmes. En réalité, pas beaucoup plus que ce qu'avait eu Barack Obama 4 ans plus tôt. À peine un point de plus, 53% pour Barack Obama, 54% pour Hillary Clinton. Donc au fond, et d'ailleurs si on regarde nous les élections présidentielles qui avaient opposé au second tour Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, les femmes avaient majoritairement en réalité voté pour Nicolas Sarkozy. Donc on voit aussi que ces idées reçues que l'on a à propos de la manière dont votent les femmes sont totalement fausses.
Alors ça a évolué historiquement, c'est-à-dire qu'au départ, et d'ailleurs c'était l'une des justifications en particulier des radicaux socialistes et des socialistes du fait de pas donner le droit de vote aux femmes, au départ les femmes ont voté plus à droite, elles se sont plus abstenues, elles ont voté, et leur peur c'était qu'elles votent comme le curé leur dirait, ça a été vrai. Et puis il y a eu une convergence liée aussi à une convergence des profils des femmes et des hommes, en particulier d'un point de vue social et professionnel. Ouais. Les femmes ont longtemps voté moins aux extrêmes, et en particulier à l'extrême droite, ce qui est de moins en moins le cas. Alors, c'est de moins en moins le cas aussi parce que le public cible, en particulier de l'extrême droite, c'est les travailleurs pauvres. Donc les pauvres parmi les pauvres, les oubliés de la République. Et parmi ceux-là, les femmes sont majoritaires. Si on regardait le profil social, elle devrait voter plus à l'extrême droite que les hommes. Il y a encore une petite réserve, je pense, de la part des femmes. Mais vous avez raison, et c'est plutôt rassurant, les femmes votent pour des raisons idéologiques pour leur candidat, et non pas en fonction du sexe du candidat ou de la candidate.
C'est toujours bon de le rappeler. Revenons un tout petit peu en arrière, et Jeanne Sénac, 1995, je parlais d'Hillary Clinton, justement, elle est à la 4e conférence mondiale sur les femmes, ça se passe à Pékin.
Durant cette conférence, nous attirons l'attention du monde entier sur les questions qui comptent le plus dans nos vies, la vie des femmes et de leurs familles, l'accès à l'éducation, les soins de santé, leur emploi et leur financement, la possibilité de jouir des droits juridiques et humains fondamentaux et de participer pleinement à la vie politique de nos pays. Et lorsque les femmes sont exclues du processus politique, elles deviennent encore plus vulnérables aux abus.
Discours qu'elle avait titré « Women's Rights are Human Rights », qui était devenu un véritable slogan ensuite. Jeanne Sénac, peut-être une réaction sur ce moment particulier. C'est vrai qu'on a le sentiment que cette conférence mondiale 1995 a peut-être marqué une rupture. Alors je ne sais pas s'il faut parler de rupture, si c'est trop, vous allez nous le dire, Jeanne Sénac. Et puis ensuite, peut-être pourrions-nous regarder le bilan que l'on peut faire de l'action des Nations Unies. Il y aura le 8 mars prochain cette journée internationale des droits des femmes. Est-ce qu'il vous semble que l'action des Nations Unies en la matière a été plutôt positive? Est-ce qu'il vous semble qu'au fond, ce n'est pas la bonne arène pour répondre à ce défi-là? Jeanne Sénac.
Alors c'est vrai que c'est intéressant que ce soit au niveau international et dans ce moment particulier qu'a été cette rencontre, cette conférence internationale des droits des femmes de 95, qu'il y a eu des débats fondamentaux. En particulier un débat autour de « doit-on plutôt porter le principe d'égalité ou d'équité ?» Je trouve que la confusion est souvent portée, en particulier en France, avec une ambiguïté au terme d'équité qui peut être pensée comme synonyme de justice. Mais l'équité peut aussi permettre de dire qu'on va traiter différemment des situations différentes. Donc, par exemple, justifier le statut personnel et que les femmes n'aient pas les mêmes droits que les hommes. Donc, et c'est l'égalité qui a été publicitée. Et ce qui est intéressant, il faut pas l'oublier, c'est que l'équité, elle était défendue parce qu'on a donc la Sainte Alliance, ce qui a été appelé la Sainte Alliance entre le Vatican et des pays du Moyen-Orient. Donc je pense que c'est quand même très important d'arrêter de discréditer ce principe d'égalité qui est perçu à tort comme un principe ne pouvant pas prendre en compte des différenciations légitimes. Le principe d'égalité est un principe de justice fort. Donc ça a été ce moment-là où les femmes du monde entier et en particulier des femmes qui viennent de pays où elles savent comment peuvent être instrumentalisées d'autres principes de justice tels que le principe d'équité sont très attachées au principe d'égalité. Ça, je pense qu'il est important d'entendre ce que ces pays et ce que ces femmes nous disent. De la même manière, la parité a été préféré au terme de quota. Et on croit souvent, avec une myopie française assez désagréable, que la parité vient de France. Ce terme-là a été porté avant tout dans l'arène internationale, à Pékin, puis et en même temps, et de manière un peu entremêlée au niveau communautaire aussi, il y avait le Conseil de l'Europe en 89, puis une conférence en 92, enfin. Donc ce qui est intéressant, c'est que la parité, ça dit vraiment cette idée de partage à égalité du pouvoir, pas seulement redistribution des places, mais aussi du pouvoir. Et c'est là où ça pêche, hein, puisqu'on est dans quelque chose de souvent de quantitatif, c'est mieux que rien. Mais par contre, sur qui a le pouvoir réellement, là, voilà, il y a des résistances. Donc je trouve que là, il y a eu un rôle de l'international qui est essentiel, et je trouve que c'est important parce qu'on parle souvent d'échanges de bonnes pratiques, ce qui est assez mal comprendre les enjeux du politique qui sont liés aussi à des histoires nationales. Mais par contre, là, on a parlé de fond, on a parlé de rapport aux principes, aux idéologies, mais en lien avec des instruments. Et si le terme de parité a été préféré à quota, parce que c'est pour dire qu'il y a à la fois l'idée d'instrument, mais aussi de principes et d'horizons politiques. Donc par rapport au rôle des Nations Unies, moi je pense qu'il est fondamental parce que c'est un sujet global, c'est un sujet qui se pose au niveau international et que ces principes sont censés être des principes universels. Donc ça, c'est très important. Mais par contre, ce qui est assez inquiétant, c'est que celles qui ont contribué à cette conférence, qui l'ont portée, qui l'ont vécue, disent souvent, celles et ceux qui sont en position aujourd'hui de faire ces conférences internationales de l'ONU, disent que si on remettait sur la table ces discussions-là, y aurait des régressions. Et d'ailleurs, c'est révélateur qu'on en soit à parler de Pékin plus 5, Pékin plus 10, Pékin plus 1. Donc, on voit bien qu'en termes d'équilibre international, il y a eu une régression sur ces enjeux. Donc, il n'y a pas de pente naturelle vers le progrès, malheureusement, en particulier sur les questions d'égalité.
D'ailleurs, régression, il y a eu dans le pays sur lequel nous allons nous pencher maintenant, en l'occurrence l'Allemagne. Régène Sénac, on est avec vous ce matin dans cette série consacrée au genre, les lieux de l'inégalité. Aujourd'hui, on parle de l'arène politique. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde, 11h31.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oder so, sagt man, glaube ich. Und insofern kann man
also. Je pense au dicton qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, le fait que j'en suis une ne doit pas être un alibi. Dans le secteur administratif, nous avons des problèmes considérables.
Voilà, Angela Merkel, chancelière fédérale de l'Allemagne depuis 2005. Si aujourd'hui Merkel est sur le déclin et que sa succession est en marche, elle a longtemps été perçue comme la personnalité politique la plus puissante d'Europe, désignée à 13 reprises femme la plus puissante du monde par le magazine Forbes. Mais au-delà d'Angela Merkel, quelle est la place des femmes dans le paysage politique allemand ? On accueille tout de suite Anne-Laure Briatte. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférences en études germaniques et en histoire à l'Université Paris-Sorbonne. Vous travaillez, vous, sur les féminismes allemands et sur la dimension de genre en politique. Au-delà du cas particulier d'Angela Merkel, on va commencer par un petit état des lieux, si vous le voulez bien, Anne-Laure Briatte. Quelle est la réalité de la présence des femmes dans le paysage politique allemand, à la fois dans le gouvernement fédéral, dans le Bundestag, dans les Länder? Est-ce qu'on approche de la parité ou est-ce qu'on en est encore très loin? Et quelle est la dynamique? C'est surtout la dynamique sur laquelle je voudrais vous entendre, Anne-Laure Briatte.
Oui, alors un tableau d'ensemble. Donc, vous avez parlé tout à fait à juste titre du cas particulier de Angela Merkel, qui effectivement est très en vue au niveau européen et mondial depuis une quinzaine d'années. Néanmoins, elle ne doit pas faire écran sur la situation un peu plus générale. Alors, autre cas particulier très récemment bien remarqué quand même, c'est celui de Ursula von der Leyen, ex-ministre fédéral de plusieurs ministères, mais dernièrement de la Défense, qui est quand même traditionnellement un territoire masculin, et tout récemment nommée à la présidence de la Commission européenne. Donc, mis à part quelques figures vraiment proéminentes, la règle générale reste que les femmes sont et restent minoritaires en politique. Par exemple, au Bundestag actuel, donc au Parlement fédéral actuel, les femmes représentent seulement 31% des députés. Mmh. Alors c'est un petit tiers et surtout ça correspond à une petite chute puisque dans le Bundestag précédent on avait quand même 37%, donc on a perdu 6 points. Mais cette chute s'explique finalement assez facilement par deux facteurs. Le premier, c'est le retour au Parlement fédéral des libéraux qui sont traditionnellement peu engagés, c'est peu de le dire, sur la parité en politique. Et deuxième facteur, l'entrée au Bundestag de l'AfD, l'Alternative für Deutschland, donc l'alternative pour l'Allemagne, qui a seulement 10 députés femmes sur un ensemble de 92 députés.
Oui, alors là, il y a deux informations que vous nous donnez sans vraiment les expliciter, mais on va peut-être s'y attarder un instant, Anne Lorbriat. C'est que d'abord, en Allemagne, il faut comprendre que ce sont les partis, au fond, qui gèrent cette question de la présence des femmes. Et premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est que plus on est à gauche de l'échiquier politique, et plus la présence des femmes est forte, et plus on glisse vers la droite, et moins on trouve de femmes, Anne Lorbriat.
Oui, on peut résumer la situation comme ceci, c'est-à-dire que effectivement en Allemagne, il n'existe pas comme en France par exemple une loi sur la parité, mais il revient à chaque parti politique de statuer sur la question d'introduire ou non des quotas pour les femmes. Donc le premier parti historiquement qui l'a fait, c'était un parti qui était tout à fait novateur, le Parti des Verts, lorsqu'il s'est créé en 1980. Et ce parti, enfin ça n'est pas un hasard, hein, ce parti s'est constitué en puisant dans le personnel des nouveaux mouvements sociaux, donc les écolos bien sûr, mais aussi les féministes et un certain nombre de mouvances de gauche. Mmh. Et le Parti des Verts a vraiment connu un succès fulgurant, notamment donc après avoir introduit un quota de 50% minimum de présence féminine sur les listes électorales, pour les mandats donc et les fonctions au sein du parti. Et cette mesure a inspiré d'autres partis, puisque par exemple le Parti social-démocrate les a imités quelques temps plus tard, mais lui en revanche a préféré une formule qui donc se limitait à 40% de présence féminine dans les partis jusqu'à aujourd'hui.
Rappelons que la majorité des femmes du Bundestag, appartiennent précisément au SPD, au social-démocrate. Hein. Encore peut-être une toute petite question, et puis je ferai réagir Réjeanne Sénac si vous le voulez bien. Vous aviez fait un article en 2014, publié dans la revue Allemagne d'aujourd'hui, dans lequel vous faisiez une comparaison entre la France et l'Allemagne, et vous notiez que la part des femmes avait toujours été plus élevée dans la politique outre-Rhin. Comment le comprendre ?
Bon, pour commencer, le droit de vote et le droit d'être élu a été introduit en Allemagne en 1919, donc il y a déjà une antériorité, 1918. 18. Et puis avec une première participation effective auprès des urnes en janvier 19. Donc il y a une antériorité historique de ce point de vue par rapport à la France. Ensuite, comment expliquer cela? Je suis un petit peu en difficulté, en réalité, pour répondre à cette question.
C'est pas grave, vous avez le droit. Hein.
Ouais. est-ce que sans doute l'idéologie et la force, surtout des partis socialistes, en amont donc de la révolution de novembre 18 et après encore sous la République de Weimar, avec une idéologie très forte en faveur d'une égalité homme-femme, a sans doute fait son œuvre dans l'acceptation d'une plus grande égalité, en tout cas dans ces milieux-là.
Réjeanne Sénac, réaction sur ce cas allemand ?
Alors, sur ce cas allemand, ce que Catherine Achin en particulier montre dans ses travaux sur les modes de recrutement et les profils des femmes politiques allemandes, et elle fait un parallèle avec la France, son bouquin s'appelait « Le mystère de la chambre basse » parce qu'elle disait, en fait, ce qui peut apparaître paradoxal, c'est que, alors c'est plus le cas maintenant, mais en France, on a un taux d'activité, ça c'est toujours vrai, qui est plus élevé donc des femmes qu'en Allemagne, mais par contre, la proportion de femmes en politique était plus élevée en Allemagne. Donc elle expliquait ce paradoxe par le type de recrutement en politique et le fait que en effet, pour les raisons donc a dit ma collègue précédemment, il y avait un recrutement qui était plus ouvert, en particulier chez les Verts et les sociaux-démocrates. Donc je pense qu'il y a une question de recrutement et puis ça pose la question plus largement à travers ce cas-là du lien entre ce qu'on appelle la représentation représentations descriptives et substantives, c'est-à-dire la présence des femmes dans les instances de pouvoir et les politiques d'égalité qui sont menées, ainsi que la place plus largement des femmes dans la société.
Parlons d'Europe.
Que représente pour vous cette élection, un succès personnel ou une victoire politique ce soir ?
Bon, écoutez, je n'ai pas vraiment, me suis pas beaucoup posé la question. Je ne pense pas à une victoire ni à un succès. Je pense plutôt à ce que ça représente comme responsabilité.
Est-ce que le fait d'être une femme est pour vous un handicap ou un avantage ?
Je veux dire que dans ma vie, pendant longtemps, le fait d'être une femme a été plutôt un handicap. Et qu'ensuite, j'aurais très mauvaise grâce de continuer à le dire, parce qu'en réalité, je n'aurais pas été ministre si je n'avais pas été une femme. Mais en tout cas, c'est certainement le fait d'être une femme qui m'a entraînée dans la vie politique. Alors, si je suis consciente que la plupart des femmes, la très grande majorité, sont encore handicapées du fait qu'elles sont des femmes, ça n'a pas été vrai pour moi ces dernières années. Mais je souhaite que pour les autres femmes, ce ne soit pas, même si elles arrivent dans les mêmes conditions, c'est-à-dire parce qu'on a besoin d'une femme, mais que ce soit tout normalement les femmes qui ont exactement les mêmes possibilités que les hommes.
Voilà, juillet 79, Simone Veil, élue présidente du Parlement européen, ce Parlement européen qui n'a jamais compté autant de femmes. Elles étaient 16% dans l'hémicycle en 79, elles sont 41% aujourd'hui. Par ailleurs, c'est pas seulement du côté du Parlement, vous le disiez tout à l'heure, Anne-Laure Briatte, aujourd'hui, la Commission européenne d'abord est quasiment paritaire et surtout dirigée par une femme, Ursula von der Leyen. Vous aviez écrit, Anne-Laure Briatte, un ouvrage justement, vous aviez co-écrit un ouvrage sur cette question. L'Europe, une chance pour les femmes, point d'interrogation. Est-ce que vous pensez qu'effectivement l'Europe est plus performante en tout cas, pourquoi est-ce qu'elle serait plus performante s'agissant de la présence des femmes, Anne-Laure Briatte ? Est-ce que vous avez un début de réponse à cette question que vous vous posiez ?
Alors, pas forcément un début de réponse, mais en tout cas une observation, c'est que l'Europe, si critiquée qu'elle puisse être, a souvent été assez en avance, voire plus en avance que les pays pris individuellement sur des questions d'égalité entre hommes et femmes. Ça se vérifie vraiment dans l'égalité sociale, également des revendications d'égalité salariale. Hein, on pense au traité de Rome en 1957. Tout ça, c'est l'Europe qui en a eu l'initiative, qui a posé les principes, et après, les difficultés viennent lorsqu'il s'agit de mettre ces principes en œuvre et de les faire réellement adopter par les différentes législations nationales.
Régine Sénac, je vais faire réagir peut-être Régine Sénac. Est-ce qu'il est seulement question, au fond, d'institutions, d'organisation des institutions, ou il est aussi la question d'une autre conception de l'égalité, finalement, qu'il y aurait en Europe? On a dit tout à l'heure, on a critiqué cette conception française de l'égalité et les conséquences que ça pouvait avoir sur les difficultés à avoir cette parité dans l'arène politique. Est-ce qu'au fond, le projet universaliste, la conception de l'égalité de l'Europe, favorise la présence des femmes?
Alors, je pense qu'il y a eu des ruses positives, c'est-à-dire qu'au départ, l'article 119 du traité de Rome, qui était associé à l'égalité salariale, était à l'initiative française pour des raisons de capitalisme bien pensé, de concurrence non faussée. D'ailleurs, c'était pas pour des raisons féministes, mais pour qu'il n'y ait pas une partie des salariés qui soit moins bien payée que l'autre et qui crée des distorsions de concurrence. Mais ça a entraîné, à partir des années 70, des directives pour l'égalité de salariale, hein, qui sont malheureusement très peu appliquées. Les pays nordiques sont des impulseurs d'évolution et on l'a vu, il y a beaucoup de choses qui ont été apportées par l'Europe en termes de droit, de rapport à la discrimination aussi indirecte, aussi pour la dimension raciste, en particulier dans les années 80. On voit quand même une forme de régression sur ces enjeux, malheureusement, en Europe. Et puis, moi je suis assez cynique, peut-être avec le temps, mais je suis persuadée même que s'il y a eu quand même une proportion de femmes élevée au niveau du Parlement européen, en tout cas en ce qui concerne la France, c'était significatif. C'est parce que c'était pas forcément vu comme l'élection la plus forte en jeu de pouvoir.
C'est juste. Merci beaucoup en tout cas, Anne-Laure Briatte, d'avoir été avec nous ce matin. On va passer de l'Europe à l'Inde.
Pendant notre lutte pour l'indépendance, Mahatma Gandhi et mon père et les autres leaders ont donné une place à la femme. Et c'était pas seulement la femme de la ville, mais aussi la femme du village. Et alors, on a découvert que les femmes qui étaient pendant toutes ces années fermées dans leur maison, elles ont montré qu'elles avaient de la capacité de faire toute espèce de travail.
Et vous pensez qu'il reste quand même encore beaucoup à faire pour
Oh oui, naturellement, parce que même maintenant, il y a très peu de femmes. Il y a des femmes qui ont de très hautes positions, mais si vous voyez toute la population, alors il y a aussi des femmes qui n'ont pas changé beaucoup.
Indira Gandhi, Premier ministre de 1966 à 1977 et de 80 à 84 avec un français parfait. C'est précisément au moment où elle devient chef du gouvernement qu'elle réalise cette interview. On va retrouver une nouvelle invitée, Stéphanie Tawa Lamal-Rewal. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, une spécialiste de l'Inde, et vous aviez écrit un ouvrage sur cette question des femmes et de leur présence dans l'arène politique, femmes et politique en Inde et au Népal. Alors, on va voir où est-ce qu'on en est en Inde de cette présence des femmes, mais il y a quand même quelque chose à noter tout de suite avec cette archive, c'est une forme de précocité du côté de l'Inde, cette femme qui arrive à la tête de l'exécutif en 1966. Comment comprendre cette précocité, Stéphanie Tawa Lamal-Rewal? Quelles en sont les raisons, quelles en sont les racines? Est-ce que c'est lié à des critères culturels spécifiques? Est-ce que c'est lié à cette ambition très forte de mettre sur pied tout de suite un régime fortement démocratique? Comment vous interprétez les choses?
Oui, effectivement, il y a des raisons à la fois historiques et culturelles. Une raison historique d'abord, qui est que, à la fois historique et culturelle de toute façon, quand l'Inde accède à l'indépendance en 1947, c'est au terme d'un mouvement donc anti-colonial qui a été essentiellement mené par le Parti du Congrès, donc mené lui-même par Gandhi, par Nehru, par d'autres leaders encore un peu moins connus comme Subhash Chandra Bose. Et tous ces leaders sont des hommes, mais ils ont conscience très tôt, et en fait le Parti du Congrès dès la fin du 19e siècle porte l'idée selon laquelle la participation pleine et entière des femmes à la vie politique est essentielle pour construire une Inde nouvelle. Et comme le disait Indira Gandhi dans cet extrait d'entretien, le Mahatma Gandhi a vraiment porté cette idée de façon à la fois très forte et très efficace, en imaginant des moyens de communication qui faisaient appel aux femmes. Et en même temps, du côté du parti institutionnalisé, le parti a eu plusieurs femmes présidentes bien avant l'indépendance. Et donc, quand l'Inde arrive à l'indépendance, il est clair que les femmes doivent avoir une place importante. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est l'importance et la légitimité de la famille dans la vie indienne, dans la vie politique, dans la vie économique aussi, qui fait que une femme membre de la famille est tout aussi légitime pour incarner la famille qu'un homme, et que donc la fille d'eux, la femme d'eux, la sœur d'eux sont tout aussi légitimes que le garçon de la famille pour continuer de porter un héritage dans la vie politique.
Donc une raison double. Stéphanie Tawa Lamal-Rewal, on en est où aujourd'hui? Le BJP, le nationalisme hindou de Narendra Modi, est-ce qu'il laisse aussi cette place-là que vous décriviez concernant le Parti du Congrès, est-ce qu'il la laisse aussi aux femmes, ou est-ce qu'il y a une forme de recul là?
Alors, le BJP a une position assez particulière sur la question des femmes. Dans son discours, le parti veut s'afficher comme un parti progressiste et donc ne manque pas une occasion de par exemple de faire valoir les politiques en faveur des femmes que sont le développement des toilettes publiques, des politiques qui visent à promouvoir l'éducation des petites filles par exemple. Mais il y a un double discours très clair, puisqu'en même temps c'est un parti nationaliste hindou qui considère donc que les femmes incarnent la nation, que les femmes en quelque sorte sont portent l'essence même de l'identité nationale, qui est donc pour ce parti comprise comme essentiellement une identité hindoue. Et cette dernière idée est peu propice en fait à l'émancipation des femmes et à l'ouverture de rôles multiples pour les femmes.
Il y a des quotas du côté de l'Inde justement pour améliorer, favoriser la présence des femmes dans les arènes politiques, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des États?
Alors, il existe des quotas au niveau local. L'Inde est un État fédéral, donc on a un Parlement au niveau national, on a 29 États fédérés aujourd'hui, et puis on a toute une vie politique au niveau local qui s'exprime à travers des conseils élus dans les villages, dans les villes, donc les municipalités, dans les districts aussi. Et depuis 1992, on a des quotas pour les femmes au niveau local. Ces quotas ne sont pas une nouveauté dans le contexte indien, dans la mesure où dès 1952, au niveau national, on avait des quotas pour d'autres catégories marginalisées, ce qu'on appelait les intouchables, les populations tribales. Mais bon, pour les femmes, ces quotas arrivent pour la première fois en 1992, donc dans le contexte d'une politique de décentralisation. Et donc, il s'agit de réserver, c'est pour ça qu'en Inde, on parle de réservation pour parler de quotas, il s'agit de réserver 33% des positions électives, donc un tiers des sièges, dans tous les conseils élus au niveau local pour les femmes. Mmh. Et ces quotas ont été mis en œuvre, ils ont même été augmentés. Les élections locales relèvent de la compétence des États fédérés. Et à ce jour, 20 États fédérés indiens sur 29, ont porté ces quotas à 50%. Pour autant, au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau où il y a vraiment du pouvoir, au niveau du Parlement national et des assemblées législatives des États fédérés, eh bien, un projet de loi a été introduit au Parlement indien en 1996 qui propose d'étendre ces quotas de un tiers des sièges au niveau national et des États fédérés, mais ce projet de loi a été complètement bloqué jusqu'à ce jour.
Par la Chambre basse qui bloque depuis très longtemps maintenant. Tout dernier point peut-être, Stéphanie Tawala Mariwal, au fond, que change l'exercice du pouvoir par les femmes? Si on regarde par exemple une des grandes figures féminines du paysage politique indien aujourd'hui, c'est Mamata Banerjee qui est ministre en chef du Bengale occidental depuis 2011. Quel est son bilan sur la question des femmes?
Sur la question des femmes, il n'y a pas grand-chose en fait. Mamata Banerjee, ça fait longtemps qu'elle est une figure clé de la vie politique nationale parce que elle est vraiment une figure de la politique bengalie. Mais je l'ai interviewée moi-même quand je faisais ma thèse sur les femmes et la politique en Inde, et elle m'avait dit très clairement, moi je suis pas une féministe, c'est pas mon problème. Elle a fait sa carrière, elle n'est pas une héritière. Elle a fait sa carrière sans que jamais personne ne lui demande si c'était un problème qu'elle soit une femme. Et là, je pense qu'il y a une vraie différence entre l'Inde et l'Europe. Et très récemment, alors elle a semblé se saisir de cette question plus large des femmes et de la vie politique en déclarant, avant les élections nationales qui ont eu lieu en mai 2019, qu'elle allait faire en sorte de donner davantage d'investiture à des candidates femmes. Donc dans son état, le Bengale occidental. Et c'est ce qu'elle a fait. Apparemment, environ 40% des investitures ont été données à des candidates femmes. Et donc on a un petit peu plus de femmes élues à l'Assemblée législative du Bengale aujourd'hui qu'avant. Mais bon, on a pas de femmes dans le gouvernement du Bengale occidental.
Merci beaucoup Stéphanie Tawala Mariwal. Et je rappelle que vous êtes auteur notamment de « Femmes et politiques en Inde et au Népal » qui était paru chez Kartala. Et un grand merci à vous, Réjeanne Selnac, de nous avoir éclairé ce matin, d'avoir ouvert cette série consacrée au genre et au lieu de l'inégalité. Je rappellerai que vous êtes l'auteur notamment de L'égalité sans condition, mais aussi d'un ouvrage qui était paru, au PUF, La parité, justement. Merci. On poursuivra demain nos questionnements autour de ces inégalités de genre. Pour l'heure, 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son Tour du monde des idées.
Le Tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
L'épidémie de coronavirus qui vient de démarrer à partir de la Chine, où elle a déjà causé la mort de près de 3000 personnes, peut-elle provoquer la démondialisation, Brice?
Beaucoup n'y croient pas. Ce n'est qu'un accident de parcours, disent-ils. Après tout, la précédente épidémie, le SRAS, également parti de Chine en 2003, n'a pratiquement pas affecté le commerce international. Le Covid-19, non plus, n'empêchera pas la Terre de tourner. Alors certes, objecte Stephen Roach, mais la Chine ne représentait alors que 8,5% de la production mondiale. Aujourd'hui, c'est 20%. Dorénavant, quand la Chine éternue, le monde entier attrape la grippe. D'autant que la crise actuelle survient mal à propos, relève cet économiste américain. Le virus a fait son apparition à un moment de forte vulnérabilité pour l'économie mondiale. La croissance mondiale a nettement ralenti en 2019 à plus 2,9%. La production industrielle a même baissé dans certains pays cette année-là, comme l'Allemagne. Bref, le virus tombe mal. Car le confinement de régions entières comme le Hubei avec ses 58 millions d'habitants désorganise les chaînes d'approvisionnement mondiales. Chez Apple, on fait déjà savoir qu'on craint des goulots d'étranglement. Le ralentissement économique chinois se lit dans les chiffres. La consommation chinoise de charbon a baissé de 38% au cours du mois de février par rapport au même mois de l'année précédente. Or le charbon représente 60% du mix énergétique de ce pays. Les dirigeants chinois, prenant conscience que leur objectif de croissance de 6% serait difficilement atteint, ont adopté de nouvelles mesures de stimulation de l'économie. Les Européens, de leur côté, doivent se préparer à voir souffrir non seulement leur tourisme, mais certaines de leurs activités exportatrices. L'Allemagne, en particulier, fortement dépendante des acheteurs d'automobiles chinois, va morfler. Mais les États-Unis ont bien tort de se croire à l'abri, estime de son côté Jeffrey Frankel. Alors que certains pays européens comme l'Allemagne ou les Pays-Bas disposent encore de marges de manœuvre budgétaires pour relancer leur croissance, le cow-boy Trump, lui, a tiré toutes ses cartouches. La Fed ne peut pas baisser davantage ses taux d'intérêt. Quant au déficit budgétaire américain, il est déjà tellement ahurissant qu'on ne saurait le creuser davantage.
Mais Brice, c'est en Asie que l'impact de la crise sera le plus douloureux.
Oui, à Taïwan en particulier. Selon l'économiste japonais Akira Kawamoto, parce que son économie est entièrement tournée vers la Chine et vers Hong Kong. Mais les sous-traitants de l'industrie chinoise comme la Corée du Sud, le Vietnam ou encore la Malaisie vont aussi être sérieusement impactés. Au Japon, il faut savoir que Honda et Nissan ont délocalisé une bonne partie de leur production, justement dans cette province chinoise du Hubei, et ils redoutent des ruptures d'approvisionnement. Mais sur toute la planète, les chaînes de production mondiales vont devoir se réorganiser dans l'urgence. Enfin, les exportateurs de matières premières vers la Chine, et en premier lieu on pense évidemment à l'Australie, doivent également s'attendre à de sérieux ralentissements économiques. Il est probable que le monde sorte d'une époque où la mondialisation de la production et l'interdépendance entre les États qu'elle a provoquée soient sur le point de s'achever, conclut Frankel. Certes, cela va accélérer le découplage commercial dont rêvait Trump entre les États-Unis et la Chine, mais on aurait tort de s'en réjouir trop, car la mondialisation a au moins permis au monde de bénéficier non seulement d'une période de prospérité sans équivalent dans l'histoire de l'humanité, mais aussi d'un bas niveau de tensions internationales. Le multilatéralisme dont rêvait l'Europe pourrait bien être remplacé dans un avenir très proche par une nouvelle politique des blocs. Alors non, la mondialisation ne va pas s'arrêter, mais un nouveau zonage géographique pourrait bien résulter de la crise du Covid-19. L'historien de l'économie Harold James écrit que les pandémies ont toujours accompagné des crises financières. On a oublié que la fameuse crise des oignons de tulipe, qui a ruiné des milliers de spéculateurs hollandais au XVIIe siècle, avait précisément coïncidé avec l'épidémie de peste provoquée en Europe par la guerre de 30 ans. Ces épidémies provoquent généralement des réactions irrationnelles de la part des États comme des peuples. Elles entraînent d'autres épidémies morales, celles-là, avec la diffusion de peurs absurdes, la recherche de boucs émissaires, l'hostilité envers les étrangers. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et les conversations bruissent de rumeurs mettant en cause les habitudes alimentaires des Chinois. Et de même, en Chine, commencent à émerger des théories complotistes attribuant le virus à l'Occident, jaloux de la réussite du pays. Mais un chef d'État n'a pas hésité, lui, à attribuer franchement l'origine du virus à une guerre biologique conçu par l'Occident pour détruire la Chine. Il s'agit de l'inévitable Nicolas Maduro, malheur du Venezuela.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve demain. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table.